Alors en 2010, la crise a plongé la Grèce dans le chaos. En 3 ans, entre 2010 et aujourd'hui, le niveau de vie des classes populaires a chuté. Le chômage a plus que quadruplé, pour atteindre 27%. Plus de 60% des jeunes sont au chômage. Les salaires ont été divisés par deux. Et la brutalité avec laquelle le gouvernement vient d'annoncer la fermeture des 3 chaînes de télévision grecques, renvoyant sans aucun préavis 2700 personnes, dont de nombreux journalistes, nous laisse imaginer quelles méthodes doivent être employées avec les simples travailleurs du rang. Le nombre de sans-logis augmente. Les familles vivent parfois des mois sans électricité ou sans eau. La misère s'est étendue avec une vitesse fulgurante. La faim est réapparue en Grèce, bien qu'aucune catastrophe naturelle ne soit produite. La catastrophe a été provoquée par le fonctionnement du système capitaliste, par son fonctionnement normal, pourrait-on dire. Les images qui nous parviennent de la télévision grecque sont parlantes. De la télévision, pardon, pas grecque, justement, sont parlantes. La Grèce étant un pays proche, proche du nôtre, appartenant à la zone euro et à l'Union européenne, chacun a pu mesurer ce que l'avenir pouvait réserver au monde du travail dans le cadre du système capitaliste au cœur même de l'Europe. La Grèce n'est pas un cas d'espèce. Au contraire, contrairement à toutes les stupidités véhiculées qui cherchent à nous présenter le peuple grec comme responsable de son malheur. Ce qui s'y passe n'a rien de spécifique. C'est au contraire l'annonce de ce que nous réserve l'économie capitaliste en crise. Ce pays a simplement été le maillon faible, celui qui a craqué le premier. Cette faiblesse, elle s'enracine dans l'histoire de la Grèce, intégrée dans le système capitaliste en position subordonnée. Face aux attaques, il y a tout de suite eu des réactions parmi les travailleurs. Même si le désespoir s'est emparé d'une partie de la population, ce dont témoigne l'augmentation du nombre de suicides dans un pays où le taux de suicide était un des plus bas d'Europe, des milliers de Grecs ont manifesté tous les jours pendant des mois. Il y a eu de multiples grèves et près d'une trentaine de journées de grève générale depuis 2010. Mais pour l'instant, hormis sur quelques mesures particulières, la population n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement et le patronat. Tel un rouleau compresseur, l'un et l'autre continuent à écraser le monde du travail qui semble impuissant à retourner la situation. La Grèce n'est pas le seul pays où la classe ouvrière est frappée par la crise du système capitaliste sans avoir les moyens politiques et organisationnels de défendre ses intérêts de classe. Dans ce domaine non plus, il n'y a aucune spécificité grecque. Au contraire, il y a l'expression de quelque chose d'universel, la crise durable d'une direction prolétarienne à l'échelle internationale. Cette crise s'est dessinée cependant à travers l'histoire particulière de chaque pays, à travers les succès et les défaites de la classe ouvrière de chaque pays. Comprendre pourquoi et comment ces luttes, qui ont été nombreuses en Grèce, ont été détournées, trahies dans le passé, est indispensable pour comprendre le présent. Et sur ce sujet, je passe la parole à Anne Zanditenas.
Je ne vous parlerai pas de la Grèce de l'Antiquité, ce berceau tant vanté de la démocratie des hommes libres dans une société esclavagiste, mais de la Grèce moderne qui est née dans les années 1830. La Grèce fait partie de la zone des Balkans qui, encore intégrée à l'Empire ottoman au XIXe siècle, était disputée par la Russie, l'Empire austro-hongrois et l'Angleterre, le pays capitaliste le plus avancé, ou encore la France. Les uns comme les autres utilisèrent les différents nationalismes de cette région pour accélérer la décomposition de l'Empire ottoman et empêcher la naissance d'une unité balkanique qui aurait pu entraver leurs appétits. Dès sa naissance, la Grèce a été sous la domination des puissances de l'époque. Commencée en 1821, la Grèce d'indépendance grecque finit par l'emporter face à l'Empire ottoman grâce au soutien militaire de l'Angleterre, de la Russie et de la France. Mais le nouvel État ne réunit qu'un cinquième de la population grecque. Sa capitale, Athènes, était une agglomération de 5000 personnes, autant dire un gros bourg. Quant à son indépendance, elle fut tout de suite bien limitée. Ce furent les puissances occidentales qui choisirent le régime et le roi du nouvel État, un Allemand, Othon de Bavière. Rapidement étranglée économiquement, la Grèce fut placée sous tutelle anglaise. Cet État, réduit à la portion congrue, était multiethnique, à l'image de l'Empire ottoman. Une grande partie des Grecs se trouvait à Istanbul, Smyrne, actuellement Izmir, ou dans d'autres villes portuaires turques. La bourgeoisie grecque, impliquée dans le commerce international et le transport maritime, vivait et menait ses affaires en dehors des frontières de la Grèce. Inversement, en Grèce, comme dans les pays frontaliers, des communautés musulmanes, albanaises, bulgares étaient mêlées les unes aux autres et constituaient des minorités. Les frontières qui s'érigeaient tranchaient fatalement dans les peuples et contribuaient à créer des situations inextricables dont les impérialismes tiraient profit pour garder le contrôle de la région. De son côté, la bourgeoisie grecque, comme les autres, tenta d'utiliser les rivalités impérialistes dans l'espoir de gagner sur les dépouilles de l'Empire ottoman un territoire qui s'étendrait jusqu'à Constantinople, donc Istanbul. Les guerres balkaniques de 1912-1913 transformèrent ces rivalités en affrontements armés. Elles aboutirent à de nouveaux partages, modifiés à plusieurs reprises, de telle sorte que la population d'une région changea parfois de nationalité plusieurs fois en quelques mois. Ces guerres balkaniques se sont révélées être un prologue de la Première Guerre mondiale qui commença, elle aussi, dans les Balkans. À la fin de la guerre de 14, le traité qui accordait à la Grèce une partie de la Turquie actuelle fut contesté par l'armée du jeune État turc de Mustafa Kemal en 1922. Les troupes grecques furent écrasées, d'autant que cette fois-ci, les puissances impérialistes, la France et l'Angleterre, avaient choisi de sacrifier la Grèce au profit de la Turquie, qui pouvait être un allié contre l'URSS. La débandade des troupes grecques provoqua la fuite des populations chrétiennes vers la Grèce, alors que les Turcs incendiaient Smyrne, où habitait une forte communauté grecque. Un nouveau traité, le traité de Lausanne, fixa en 1923 les frontières respectives de la Grèce et de la Turquie et avalisa la séparation ethnique à laquelle s'ajoutait une séparation religieuse. Les Grecs étant majoritairement orthodoxes et les Turcs musulmans. 1 500 000 Grecs dépossédés, dont certains ne parlaient que le turc, furent chassés de territoires attribués à la Turquie et devinrent des réfugiés, alors que 400 000 Turcs furent obligés de quitter la Grèce pour la Turquie. Cependant, les Grecs venus de l'actuelle Turquie étaient issus de zones urbanisées où la classe ouvrière était plus développée. Cette population déracinée, dont une partie forma les rangs du prolétariat, joua un rôle important dans le développement du mouvement ouvrier naissant. Dans ce pays peu industrialisé, comme dans le reste des Balkans, la classe ouvrière, numériquement faible, mal payée, mena de longues luttes. Elle réussit même à menacer le pouvoir de la bourgeoisie à l'échelle d'une ville, à Salonique, en 1936. En parallèle, la bourgeoisie réagissait violemment. Que ce soit sous la monarchie ou la République, elle répondit à la combativité de la classe ouvrière par une répression féroce. Le mouvement ouvrier se rassembla quasiment d'emblée autour des idées communistes. Le Parti social-démocrate, le Parti socialiste ouvrier, s'était constitué en 1918. Sous la pression de la combativité ouvrière, de la victoire des ouvriers en Russie et de la construction du premier État ouvrier, ce parti s'orienta majoritairement vers le communisme. Il adhéra à la Troisième Internationale en 1920 et prit le nom de Koukoué en grec ou KKE en français en 1924. Syndicalement, la Confédération hellénique du travail, qui s'était formée en 1918, resta très liée au nouveau KKE. Ce jeune parti communiste fut confronté en quelques années à des situations très différentes. Lors de la guerre contre la Turquie, il prit courageusement position contre la guerre. À la fin de celle-ci, il se retrouva plongé dans une période d'ébullition politique et sociale liée à l'arrivée des réfugiés. Sa direction fut arrêtée et la progression du parti, encore très faible, stoppée par la répression. Elle reprit en 1923 grâce à l'apport de militants formés en Union soviétique. Avant même que le Parti communiste grec ne se consolide en 1924, le développement de la bureaucratisation de l'État soviétique eut des répercussions au sein de l'Internationale communiste, qui fut gangrénée par le stalinisme en quelques années. En Grèce, des fractions se formèrent. Pendant quelques années, ceux qui se reconnaissaient dans l'opposition de gauche furent parfois plus nombreux que ceux qui suivaient Staline. Les frontières entre les deux courants restèrent un temps poreuses, de nombreux militants passant de l'un à l'autre. La fraction stalinienne, cependant, profitait de l'appui matériel de l'URSS et surtout de l'autorité de la Révolution russe et de l'Internationale communiste parmi les travailleurs. La politique d'exclusion puis d'assassinat des militants, mettant en doute la politique de Staline, créa un fossé de sang entre les deux tendances. À la fin des années 20, le Koukoué, aux mains des staliniens, avait environ 3000 militants, pour la plupart en prison ou en exil. Mais sa politique, comme celle des autres partis communistes d'Europe, était désormais définie par les besoins de la diplomatie stalinienne et non plus par la volonté de renverser le capitalisme. Le KKE et la population ouvrière qui lui fit confiance allaient payer chèrement cette politique de la montée du fascisme des années 30 jusque dans les années 50 et finalement jusqu'à aujourd'hui. La victoire du fascisme en Allemagne en 1933, après la crise de 1929, entraîna un changement de politique des partis communistes staliniens. Après avoir défendu un cours sectaire de rejet de toute action commune avec les partis socialistes, ils défendirent une politique d'alliance avec les partis bourgeois progressistes et les partis socialistes. Les partis communistes se mettaient à la remorque des partis bourgeois. En Grèce, sous la direction de Zakariadis, un militant formé dans les écoles du parti à Moscou, le Parti communiste adopta un programme acceptable pour les partis bourgeois. Il était limité à quelques mesures, comme l'annulation de la dette envers les banques européennes, le pays était de nouveau sous leur coupe, la nationalisation et la distribution des terres en réponse au mouvement paysan et la séparation de l'Église et de l'État. Dans un climat insurrectionnel marqué par des soulèvements paysans, des grèves générales, la bourgeoisie grecque s'orienta vers le retour de la monarchie et l'instauration d'une dictature fascisante. Un coup d'État organisé par les dirigeants de l'armée monarchiste chassa les républicains du pouvoir. Il permit le retour du roi Georges II en 1935. Un an plus tard, en 1936, le ministre de la guerre, le général Metaxas, prenait le pouvoir. Malgré la combativité ouvrière, la bourgeoisie l'avait emporté, profitant des tergiversations des responsables du Koukoué, paralysés par leur alliance avec les républicains. Metaxas déporta dans les îles des milliers de militants communistes. Il développa un climat de délation. Ceux qui étaient soupçonnés d'être des militants étaient libérés s'ils se reniaient par une déclaration publique et s'ils en dénonçaient d'autres. Les syndicats ouvriers comme paysans furent interdits. Le Parti communiste, réduit à de petits groupes, continua à exister dans la clandestinité. Avec la Deuxième Guerre mondiale, les Balkans redevinrent un terrain d'affrontement armé entre les impérialistes qui s'appuyèrent sur les calculs des nationalistes locaux, toujours avides de récupérer des territoires. Le 28 octobre 1940, l'Italie adressa un ultimatum à la Grèce. Le roi, Georges II, et son gouvernement refusèrent de céder aux pressions italiennes. La Grèce resta l'alliée des Britanniques. La bourgeoisie grecque pensait trouver auprès de ses alliés des aides pour la reconquête de la Macédoine ainsi que des territoires perdus en 1923 et faire face à l'Italie et à la Bulgarie, ses concurrents. Mussolini n'attendit même pas la fin de l'ultimatum pour lancer ses troupes contre la Grèce. Mais celles-ci se heurtèrent à une résistance imprévue de la population. Les armées d'Hitler se portèrent au secours des armées italiennes et entrèrent en Yougoslavie, puis en Grèce, à partir du 6 avril 1941. Le 27 avril, Athènes et la Grèce étaient occupées par les armées italiennes, allemandes et bulgares, qui espéraient récupérer une partie de la Macédoine. Le gouvernement grec trouva refuge au Caire et le roi, avec les lingots d'or de la Banque nationale grecque, partit à Londres, toujours sous la protection des Britanniques. L'occupation fut terrible. L'armée allemande pilla les ressources minières et les produits agricoles que produisait la Grèce. Elle fit payer l'occupation à la population. Elle introduisit une monnaie dont elle fixait le cours. Les prix montèrent en flèche, alors que les revenus de la population baissaient de façon dramatique. Le pillage des richesses du pays, l'inflation, entraînèrent une véritable famine dans les villes pendant l'hiver 1941-1942. Le pacte germano-soviétique d'août 1939 avait frappé de stupeur les rangs communistes. Du jour au lendemain, les militants durent accepter que Staline encense Hitler, l'ennemi d'hier. Tout comme en France, où le Parti communiste alla jusqu'à demander l'autorisation de sortir son journal L'Humanité sous l'occupation, les militants grecs en arrivèrent à des positions aberrantes que Stinas, un militant d'extrême-gauche grec, raconte dans ses mémoires. Dans le camp de concentration où il était, les militants communistes attendirent le feu vert de leur direction pour s'évader et ne parvinrent pas à l'obtenir. Le retournement d'Hitler contre la Russie en juin 1941 libéra les partis communistes de ce dilemme. Ils revinrent à une politique de défense nationale et d'alliance avec les partis bourgeois. Le KKE l'exprimait ainsi dans une note interne en septembre 1941. Je cite. Tant que les occupants étrangers sont dans notre pays, toute lutte de classe est non seulement indéfendable, mais aussi antinationale. C'était clairement trahir. Le Front national de libération, l'EAM, et l'Armée de libération nationale, l'ELAS, se constituèrent sous la direction quasi exclusive du Parti communiste. Cependant, même seuls, ils adoptèrent un programme limité aux revendications acceptables par la bourgeoisie. Libérer le pays de l'occupation, obtenir l'indépendance nationale, former un gouvernement provisoire qui devait organiser des élections et empêcher toute tentative de retour à un gouvernement réactionnaire contraire à la volonté du peuple. C'était en fait le programme qu'avait défendu le parti sous Metaxas. L'ennemi était réduit aux impérialismes fascistes. Les soldats italiens ou allemands n'étaient pas considérés comme des ouvriers ou des paysans en armes, parmi lesquels pouvaient se trouver des communistes, mais comme des ennemis, au même titre que leurs chefs. Le KKE resta un parti radical, mais politiquement petit bourgeois, et qui, tout en servant les intérêts de la bourgeoisie nationale, gardait un lien de dépendance avec Moscou. Cette politique de résistance nationale dictée par Staline fut appliquée par tous les partis communistes. Mais les pays où elle fut un succès furent des exceptions. Il n'y en eut que quelques-uns, en Yougoslavie, en Albanie, en Grèce, que le mouvement de résistance donna naissance à un mouvement de masse où les communistes créèrent des armées de plusieurs dizaines de milliers de membres. Dans le reste du monde, la résistance ne réunit que de petits groupes, comme en France, où il fallut toute la propagande du Parti communiste français pour en faire un mythe, prétendant que la résistance avait compté dans la libération du pays. En Grèce, les masses qui s'étaient engagées dans la résistance ont été trahies, comme nous le verrons dans la suite, par celui-là même qui avait dicté cette politique, à savoir Staline. En mai 1942, le parti envoya des militants rejoindre la guérilla qui se développait dans certaines régions montagneuses. Le premier, Haris Veloutchotis, communiste, officier, déjà rompu à l'exil et à la prison, prit la tête de paysans et de contrebandiers qui avaient commencé à se défendre. Il les organisa et leur donna une base politique. Très rapidement, les bandes armées organisées par le Koukoué se répandirent et parvinrent à reconquérir une partie du territoire montagneux. Dans ces zones, où l'État était presque inexistant sous la dictature de Metaxas, le KKE, au travers de l'EAM, mit sur pied une administration, une justice, une armée. Il organisa les zones occupées. L'organisation d'un appareil d'État allait de pair avec un encadrement de la population. tout en répondant aux nécessités de l'occupation, facilitant l'approvisionnement, la protection des villageois, il maintient l'ordre selon le rôle fondamental d'un appareil d'État. Il régna un climat de dictature dans les territoires sous contrôle de l'EAM, contre les opposants politiques, contre les femmes soupçonnées d'avoir eu des relations avec les occupants, etc. D'autres mouvements de résistance concurrencèrent le Koukoué, engageant, malgré l'occupation, des combats sanglants contre lui. Aucun d'eux ne parvint à se transformer en mouvement de masse, malgré l'aide britannique. Le DES, par exemple, particulièrement doté en argent et en armes par les forces britanniques, resta minoritaire. À l'automne 1943, la défaite de Stalingrad marqua un tournant dans la guerre. La victoire des Alliés n'était plus qu'une question de temps. En mars, des grèves avaient éclaté en Italie, puis le régime s'était effondré. Les défaites du camp adverse rendaient plus indispensable la préparation de l'après-guerre. Les grandes puissances des deux camps craignaient que la fin de la guerre mondiale ne donne lieu à une vague révolutionnaire comme à l'issue de la première. La zone des Balkans y était propice, car les Allemands et leurs alliés s'étaient substitués aux appareils d'État existants. Leur retrait pouvait entraîner des situations de vide de pouvoir. Cette volonté d'empêcher toute action autonome de la classe ouvrière faisait aussi partie des préoccupations de Staline, l'Union soviétique ayant abandonné depuis 1924 la volonté de propager la révolution pour défendre, au contraire, une politique conservatrice. Les trois grandes puissances du moment, l'Union soviétique, l'Angleterre et les États-Unis, s'allièrent donc pour écraser les troupes allemandes et japonaises et surtout assurer le maintien de l'ordre dans les pays dévastés et en particulier vaincus. L'Alliance contre-révolutionnaire conclue lors de la conférence de Téhéran en décembre 1943, de Yalta en février 1945, puis de Potsdam la même année en juillet, fixa les zones d'influence de chacun des protagonistes. Ces zones, en lien avec l'avancée des troupes de chacun des alliés, dépendaient aussi des marchandages auxquels ils se livrèrent. Ceux-ci furent âpres, car les impérialistes britanniques et américains étaient rivaux, tout en étant l'un et l'autre prêts à s'allier contre l'Union soviétique. Staline tenait à collaborer avec les impérialismes. Il respecta les accords conclus et les accompagna de gestes démonstratifs. Pour Churchill, le maintien de la Grèce dans sa zone d'influence était primordial. Selon lui, les Soviétiques ne devaient pas avoir d'accès au détroit du Bosphore et des Dardanelles vers la Méditerranée. Et plus les troupes soviétiques pénétrèrent dans les Balkans, plus la Grèce devint le symbole du rempart de l'Occident contre les Soviétiques. Le KKE, le Parti communiste grec, fut donc soumis au chantage de Churchill et Staline. Churchill raconte dans ses mémoires une discussion avec Staline. Je le cite. « Vos armées se trouvent en Roumanie et en Bulgarie. Évitons de nous heurter pour des questions qui n'en valent pas la peine. En ce qui concerne la Grande-Bretagne et la Russie, que diriez-vous d'une prédominance de 90% en Roumanie pour vous, de 90% en Grèce pour nous et de l'égalité 50-50 en Yougoslavie ?» L'impérialisme anglais obtint de Staline toute latitude pour régler à sa façon le problème soulevé par la résistance grecque et la sortie de l'occupation. L'accord était secret. Le KKE fut laissé à l'écart de ce marchandage cynique dont il n'eut connaissance que des mois plus tard. Les derniers mois d'occupation furent meurtriers. L'ensemble du pays fut occupé par des troupes allemandes à la suite du retrait des Italiens au moment de la chute de Mussolini. Certaines unités italiennes, lorsqu'elles se retirèrent, se révoltaient contre leur propre hiérarchie, poussées par la situation explosive en Italie. Mais cette révolte, hélas, l'armée de la résistance communiste ne chercha pas à l'exploiter, c'est-à-dire à fraterniser avec les soldats italiens. Au contraire, elle appliqua une politique de traque, volontairement meurtrière. C'est là une des conséquences du choix d'une politique nationaliste. L'hélas considérait qu'un ennemi devait rester un ennemi, quelle que soit son appartenance de classe, quelle que soit sa révolte contre ceux qui l'avaient envoyé dans cette boucherie. C'était un gâchis des possibilités que laissait paraître cette situation. Les troupes allemandes occupèrent les grands axes, mais ne purent pénétrer durablement dans les montagnes. Elles poursuivirent leur incursion, maintenant la résistance sous leur pression, et manœuvrèrent pour provoquer des conflits entre les organisations rivales. Dans les villes, les autorités allemandes tentèrent d'obtenir la mobilisation civique, c'est-à-dire l'envoi de travailleurs grecs en Allemagne. À Athènes, cette tentative engendra une grève générale de la fonction publique et des manifestations qui mobilisèrent jusqu'à un quart de la population. Des promeneurs, sur un signal, se transformaient en manifestants en différents lieux et convergeaient avec pour slogan « Abat les salaires germaniques, pas de travailleurs pour l'Allemagne ». La population brava les mitraillettes et les troupes allemandes et marcha sur les bâtiments officiels occupés, obligeant les autorités allemandes à renoncer à l'envoi de travailleurs en Allemagne. Cependant, l'issue de la guerre ne pouvait dépendre de la résistance, mais des combats entre les différents belligérants. Pendant les derniers mois de l'année 1944, l'état-major allemand prépara son retrait. Il voulait laisser les villes occupées sous le contrôle de forces anticommunistes. Les autorités allemandes créèrent des bataillons de sécurité. Ces bataillons, ainsi que toutes les autres troupes supplétives au service de l'état-major allemand ou de leurs alliés bulgares, formèrent l'ossature des forces de répression qui allaient passer au service des autorités britanniques. Les gouvernements allemands et britanniques partageaient une même préoccupation, celle de ne pas laisser le terrain aux communistes et aux troupes russes. Un accord tacite face à l'avance des troupes soviétiques conduisit les Britanniques à ne pas gêner le retrait des troupes allemandes, dont ils espéraient qu'elles bloqueraient l'avance des troupes russes. En vue d'assurer sa mainmise sur la Grèce, après l'échec de ses tentatives d'abattre la résistance communiste, l'impérialisme britannique chercha à soumettre la direction de la résistance à celle de l'état-major anglais, c'est-à-dire à écraser politiquement l'EAM avant de l'écraser tout court. L'impérialisme britannique voulait aussi obtenir une restauration de la monarchie, bien que le roi soit honni par la population. Ce roi représentait pour Churchill la garantie que le pays resterait une base militaire dans la zone d'influence occidentale. L'impérialisme britannique donna un avant-goût des méthodes qu'il n'hésiterait pas à employer pour arriver à ses fins en mars 1944. Les troupes régulières grecques stationnées en Égypte, qui se révoltèrent contre la tentative de leur imposer un commandement monarchiste, furent écrasées par les forces britanniques. L'armée grecque fut épurée pour devenir une armée royaliste. Le désarmement politique de l'EAM et de l'ELAS se fit en trois étapes. La première étape consistait pour le gouvernement britannique à faire accepter au KKE et aux organisations de résistance liées aux communistes la direction d'un gouvernement contrôlé par les autorités anglaises. Celles-ci utilisèrent un socialiste, Papandréou, fondateur d'un parti social-démocrate en 1935. Il avait été plusieurs fois ministre avant la prise du pouvoir par Metaxas. Celui-ci l'ayant exilé, il pouvait passer pour un opposant. Mais pour commencer, ce socialiste approuva la répression et l'épuration des troupes régulières grecques stationnées en Égypte, ainsi que la perspective du retour du roi. Le KKE, cherchant à montrer sa volonté de collaboration, venait de créer un comité politique de libération nationale dont la légitimité était assurée par l'élection d'un parlement organisé en avril 1944 sous l'occupation. Son programme n'incluait ni la distribution des terres ni l'expropriation des riches. Concrètement, Papandréou devait obtenir la dissolution de ce comité que le KKE venait de constituer. Donc une première rencontre eut lieu au Liban, sous la direction de Papandréou, entre les différents partis, dont la moitié des représentants vivaient en exil et ne représentaient qu'eux-mêmes. Menaçant de rupture les représentants de la résistance communiste, s'ils ne condamnaient pas la mutinerie des troupes grecques au Moyen-Orient, les abreuvant d'injures, les accusant de vouloir prendre le pouvoir seul, Papandréou obtint du KKE un accord qui stipula que la résistance devait collaborer avec les forces alliées et le principe d'un vote, je cite, « en dehors de toute pression morale et matérielle », était-il précisé, « pour le retour du roi ». Le KKE céda donc une première fois. La deuxième étape eut lieu quelques mois plus tard, en septembre 1944, à Caserte. Lors de la rencontre, un des représentants communistes, Despotopoulos, demandant à Papandréou « pourquoi faire appel aux Britanniques puisque les Allemands fuient tout seuls ?» Papandréou menaça « si vous insistez, il n'y a pas d'union nationale ». Ne voulant pas rompre, les organisations de résistance communiste autorisèrent cette fois-ci le débarquement allié après le départ des troupes allemandes et le AM passa sous le contrôle du gouvernement Papandréou qui lui-même se soumit aux ordres du général britannique Scobie. Ce dernier devint le chef des forces armées grecques. Churchill pouvait écrire à Staline, je cite, « Nous sommes très heureux que vous vous soyez opposés à l'idée de changer par la force ou par la propagande communiste les règles établies dans les divers États balkaniques. » Quelques semaines plus tard, en octobre 1944, la retraite allemande commença. Au fur et à mesure, les LAS prenaient la place laissée par les troupes allemandes. Le KKE disposait de 40 000 membres et de 20 000 militants de l'EAM à Athènes. Trois jours après l'entrée des troupes de l'Hellas à Athènes, ce fut le tour des troupes britanniques. La troisième étape commençait. L'objectif fixé aux armées britanniques était le désarmement de la résistance. Churchill a écrit dans son autobiographie « Le temps a plus d'importance que le nombre ». Il profita de la paralysie du Kukué, englué dans la collaboration de classe et les accords entre Staline et les Alliés, pour parvenir à ses fins, malgré un rapport de force défavorable au départ. Pour désarmer la résistance, les dirigeants britanniques ne s'embarrassèrent d'aucun scrupule. Ils reconstruirent un appareil d'État à partir de celui qui avait été à la solde des nazis, dont les membres ne furent ni arrêtés ni jugés, comme l'avait promis Papandréou. L'affrontement des forces britanniques et de celle du Kukué commença fin novembre 1944. Le général Scobie le provoqua en décrétant que les armes aux mains de la résistance devaient être déposées avant le 10 décembre 1944. Quelques jours plus tard, le 3 décembre, la population manifestait place de la Constitution à Athènes. Le gouvernement laissa les groupes d'extrême droite attaquer les manifestants. La population riposta par la grève générale. De nouveaux heurts se produisirent. Lors de l'enterrement des victimes de ces journées, l'extrême droite se déchaîna, faisant des centaines de morts. Scobie décréta la loi martiale. Il menaça d'affamer la ville en arrêtant les distributions de vivres si l'Hellas n'évacuait pas la ville. Cette attitude était délibérée. Les soldats britanniques reçurent le conseil suivant de Churchill. N'hésitez pas à agir comme si vous vous trouvez dans une ville conquise où se développe une rébellion locale. Les résistants étant considérés comme des hordes de bandits à abattre. Acculés, l'EAM et le KKE répliquèrent en appelant les organisations de la résistance au combat, sans pour autant rappeler leurs troupes des montagnes. Au bout d'un mois de combats violents, les troupes britanniques, toujours plus nombreuses, réussirent à reprendre le port du Pirée, puis les quartiers de la ville. Ils utilisèrent des blindés, bombardèrent les quartiers populaires. Les troupes soviétiques présentes à la frontière ne bougèrent pas. L'EAM évacua Athènes début janvier 1945. L'échec de cette première phase de la guerre civile mena au désarmement des troupes de la résistance en mars 1945, à l'issue d'une rencontre à Varkiza, au moment même où Churchill, Staline et Roulvette se rencontraient à Yalta. L'Hellas cessait d'exister. Le KKE n'était pourtant pas défait. Il disposait toujours de la sympathie d'une grande partie de la population. L'occupation par les forces britanniques heurtait le sentiment national. Elle n'était soutenue que par la bourgeoisie et une fraction de la petite bourgeoisie terrorisée par le communisme. Enfermé dans sa politique nationaliste, sans référence de classe, défendant le « à chacun son boche », le KKE ne pouvait défendre de la même façon « à chacun son anglais ». Il s'interdit d'engager les partisans contre les troupes britanniques, concentrant les combats contre les forces nationalistes fascisantes à la solde des Britanniques. Son engagement dans les combats n'avait qu'une seule ambition, faire pression sur Papandriou et ses protecteurs. Se heurtant à leur intransigeance, ils répondirent par des rodomontades que les militants payèrent de leur vie. Un des leurs exprimait cette impasse en décembre 1944. Si aucun compromis n'intervient, l'EAM, hélas, poursuivront le conflit sans espoir. Et effectivement, ils l'ont continué sans espoir. Les dirigeants impérialistes ne se résignaient pas à un partage de l'Europe dont une partie importante était dans la zone d'influence de l'URSS. Parallèlement, des révoltes anticoloniales se développaient. L'URSS devint l'ennemi principal et la volonté d'endiguer son influence aboutit après 3 ans d'affrontement à la séparation quasi complète de l'Europe en deux. Le KKE était face à des enjeux qu'il dépassait. Quelles que soient les garanties qu'il pouvait donner, l'impérialisme anglo-américain n'aurait pas toléré qu'il participe au pouvoir. Après 1945, les Britanniques, voulant garder une façade légale, organisèrent des élections législatives. Elles se déroulèrent dans un climat de violence politique, d'autant plus âpre que malgré la terreur blanche, la mobilisation des travailleurs se poursuivait contre la vie chère, contre la libération des fascistes, pour leur condamnation et contre la présence britannique. Les communistes, tout comme les libéraux, appelèrent à s'abstenir, refusant de participer à cette mascarade. La Chambre élue fut de ce fait majoritairement monarchiste. Elle remit en place le Code du travail hérité de Metaxas, interdit les journaux de gauche, le droit de grève, mit en place des tribunaux d'exception et prépara le référendum pour le retour du roi en septembre 1946. Face au durcissement de la politique de ses anciens alliés, Staline modifia sa stratégie. Il lâcha la bride aux communistes grecs pour se servir de la résistance grecque comme monnaie d'échange. L'URSS ne s'apprêtait pas à aider le KKE dans sa conquête du pouvoir, ce qui aurait été une rupture de ses engagements vis-à-vis de ses deux alliés, mais simplement à montrer qu'il avait les moyens de s'opposer aux impérialistes par peuple interposé. Zakariadis, qui reprit sa place de dirigeant historique du KKE une fois libéré de Caen, analysait chacun des signes de Staline contre les impérialistes britanniques et américains comme un encouragement à relancer la lutte armée. Les soviétiques, pour la première fois en janvier 1946, avaient demandé le retrait des troupes britanniques. Le KKE annonça après les élections la reprise de la lutte. Des groupes de défense se constituèrent, les armes furent déterrées. Mais il n'était toujours pas question de chercher à obtenir des victoires militaires, seulement de faire pression pour imposer une renégociation. L'absurdité et le coût de cette politique provoqua des réactions au sein du parti, qui subit de nouvelles épurations. De l'ordre de 25 000 militants furent chassés du parti, isolés ou tués. Dans le cadre de ces épurations, de nombreux trotskistes furent aussi assassinés. Lorsque le comité central du KKE décida finalement la reprise de la lutte armée en octobre 1946, le parti était affaibli, isolé, tant dans le pays que vis-à-vis de ses soutiens potentiels comme la Yougoslavie ou l'Albanie. Quant à l'URSS, elle promit des armes, mais n'en fournit pas. Les masses, découragées, se détournaient de la lutte. La nouvelle armée démocratique avait pour objectif le départ des troupes anglaises et la formation d'un gouvernement d'union nationale, malgré le changement de la situation qui repoussait la petite bourgeoisie radicale dans les bras des partis de l'ordre. En janvier 1947, les Britanniques, aux prises avec le mouvement de lutte pour l'indépendance dans leurs colonies, passèrent le relais aux Américains. Les États-Unis s'engageaient dans la guerre froide. La doctrine Truman, du nom du président des États-Unis qui théorisa le droit de l'impérialisme le plus fort à imposer sa loi, instaura en Grèce une mise sous tutelle encore plus importante que celle des forces britanniques. Le gouvernement américain imposa Sophou Louis comme président du Conseil sous la menace de bloquer les livraisons de combustible. Il envoya le vice-président du syndicat des travailleurs de l'acier, Clint Golden, pour trouver des intermédiaires au sein du mouvement ouvrier. À la fin de l'année, les mesures répressives étaient encore aggravées. Le mouvement communiste, sous toutes ses formes, devint hors la loi. Des milliers d'hommes et de femmes résistants, militants de gauche, furent condamnés à mort. Dans les montagnes, les troupes américaines utilisaient le napalm. Les communistes furent pourchassés, traqués jusqu'au dernier. Cette chasse à l'homme fut d'autant plus terrible que les résistants ne pouvaient même plus compter sur l'appui de la population des montagnes. La rupture en juin 1948 entre la Yougoslavie et l'Union soviétique aggrava les conditions de la résistance. Non seulement l'aide yougoslave s'arrêta, mais les frontières entre la Yougoslavie et la Grèce furent fermées, empêchant de nombreux résistants de fuir. L'armée démocratique fut écrasée en août 1949. La guerre civile avait fait 100 000 victimes et contraint 80 000 Grecs à l'exil, et autant furent déportés dans les îles. Des sommes énormes avaient été englouties dans la guerre pour éradiquer la résistance communiste. D'après un sénateur américain, le gouvernement américain avait dépensé 8 500 dollars par partisan. Cet argent n'avait pas été consacré à la reconstruction. Le pays était encore plus pauvre qu'en 1938. De 1950 à 1960, le pays se remit des années de guerre qu'il venait de vivre et connut un certain développement, mais il resta sous la surveillance et l'autorité des États-Unis. Ces derniers favorisèrent un régime qualifié de démocratique, mais ils gardaient la main sur l'armée. Ils appuyèrent la droite la plus réactionnaire contre les libéraux ou les centristes dès que la moindre mesure démocratique ou sociale était sur le point d'être prise. Les gouvernements qui se succédèrent jusqu'au coup d'État des colonels en 1967 poursuivirent la chasse aux communistes et plus généralement à tous ceux qui avaient participé à la résistance ou à la guerre civile. La situation économique désastreuse avait transformé de nombreux travailleurs ou paysans en lumpen prolétaires. La police forma à partir de ces hommes un vivier de mouchards, d'activistes d'extrême droite à son service, qui effectuaient des coups de main en marge de la légalité contre les ouvriers, contre les intellectuels contestataires. Un certificat de probité était nécessaire pour obtenir un poste dans l'administration ou s'inscrire à l'université et servait de moyen de chantage sur les familles. Malgré ce climat et l'interdiction de leur parti, le courant communiste continua à exister, en particulier au travers d'un parti de gauche toléré, l'EDA, c'est-à-dire la Gauche démocratique unifiée, réunissant des socialistes et surtout des militants communistes. Les succès électoraux de l'EDA, qui devint en 1958 le deuxième parti du pays, inquiétaient la bourgeoisie grecque et les milieux réactionnaires, ainsi que les États-Unis engagés dans la guerre de Corée et le maccartisme. L'EDA ne cherchait pas à sortir du jeu parlementaire. Elle avait pour ambition la mise en place d'un gouvernement bourgeois réformiste défendant quelques options différentes des partis libéraux ou de droite au pouvoir. Les dirigeants de l'EDA réclamaient bien sûr la démocratisation de la vie politique, la libéralisation des prisonniers, la légalisation du Parti communiste ainsi que la démocratisation syndicale, car la droite contrôlait la GSEE, la Confédération générale des travailleurs grecs. L'EDA développait une propagande pacifiste contre l'entrée de la Grèce dans l'OTAN et le rôle de basse avancée contre les pays dits communistes qui lui étaient dévolus. Dans le contexte de guerre froide, ce programme renforçait les positions soviétiques face aux Occidentaux, ce qui révulsait les partis de droite. Il se battait aussi contre l'intégration au sein de l'Europe, qui commença à être discutée en 1961, car d'après elle, cela signifiait se retrouver sous la férule des Allemands. Devant le refus de l'impérialisme de l'accepter, l'EDA se mit à la remorque de l'Union du Centre, dirigée par le même pape Andréou qui avait été la courroie de transmission des Britanniques. Mais quelles que soient les concessions que pouvait faire l'EDA, l'impérialisme ne cédait pas. Du fait des liens qu'entretenaient les communistes avec l'Union soviétique et de ceux qu'ils avaient avec la classe ouvrière, alors que celle-ci rentrait en lutte. Dans les années 1960, les travailleurs du bâtiment, des usines d'engrais, des boulangers ou de fonctionnaires se mettaient en grève, réclamant de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et de revendications politiques telles que la liberté syndicale ou encore le retour des exilés. Les milieux paysans étaient aussi agités. Les inégalités sociales se creusaient entre les travailleurs et les paysans surexploités et la toute petite fraction de la population qui profitait du développement du pays. La situation était explosive. L'assassinat du député de l'EDA Lambrakis au cours d'un meeting contre l'OTAN en 1963 bouleversa le pays. Cet assassinat politique retracé dans le film Z faisait apparaître au grand jour les liens entre les milieux d'extrême droite et l'État. Il levait le voile sur les ramifications que l'appareil d'État entretenait pour surveiller et contrôler la population. Les signes avant-coureurs de la préparation d'un coup d'État de l'armée se multipliaient et le développement des luttes des travailleurs en accroissait le risque. Mais les Lambrakis ou les Papandréou ne préparaient pas la population à la riposte. Ils la laissaient démunie face aux militaires qui prirent le pouvoir sans difficulté, malgré la mobilisation de la population. Ce genre de situation s'est vu à plusieurs reprises dans bien des pays, mais cette expérience doit nous servir à comprendre qu'il ne s'agit pas ici de courage personnel, courage qu'avaient bien des députés et des militants de l'EDA, mais d'une politique nécessaire pour empêcher le musellement de la classe ouvrière. Grâce au report des voix de l'EDA, Papandréou obtint la majorité. Les quelques mesures favorables à la population qu'il prit favorisèrent une recrudescence des luttes. Mais Papandréou fut limogé et de nombreux Grecs réagirent en manifestant. Une nouvelle période électorale s'ouvrit en mai 1967 qui devait être à nouveau emportée par le parti de Papandréou. Devant la prévision de cette victoire, la junte des colonels prépara un coup d'État qualifié de révolution nationale. Des manifestations, des grèves répondirent au coup d'État et furent violemment réprimées. Les ouvriers, les contestataires furent emprisonnés, battus, et même les parlementaires, les leaders démocratiques centristes furent durement traités. Andreas Papandréou, fils et bras droit de Georges Papandréou, se retrouva en exil jusqu'à la chute des colonels. Mais ni l'EDA ni Papandréou ne proposèrent une politique contre le coup d'État. Pour la junte, le moindre mot en faveur des libertés ou de réformes suffisait à être qualifié de communiste. Malgré la violence de la répression et la surveillance policière constante, des groupes continuèrent à résister. En 1968, une manifestation de 500 000 personnes accompagna la dépouille de Georges Papandréou. La même année, le jeune homme Alekos Panagoulis tenta sans succès d'assassiner le colonel à la tête de la junte. Des réactions individuelles ont donc eu lieu. Mais la prise du pouvoir par les colonels a montré une fois de plus l'incapacité des partis de gauche et d'extrême gauche de préparer les exploités à se défendre. Le résultat en a été que ce pays, désigné comme le berceau de la démocratie, partie intégrante de l'Europe, a été soumis à 7 années de dictature qui l'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. À partir des années 1949, fin de la guerre civile, la bourgeoisie grecque rétablit sa fortune sur les mêmes bases que par le passé, à savoir le parasitisme. Elle profita d'une politique de l'État qui lui était particulièrement favorable et des dollars du plan Marshall jusque dans les années 1965. Les familles d'armateurs toujours connues, les Onassis, les Laxis, les Livarnos ou encore Niarchos, pour ne citer que les principaux, purent reconstituer rapidement leur flotte qui représenta en 1968 12% de la flotte mondiale. Ils avaient obtenu à partir de 1953, au nom du développement économique, de n'être assujettis qu'à une taxe forfaitaire sur le tonnage et aucun impôt sur leurs bénéfices ou leurs sociétés. Les gouvernements, puis la junte, mirent en place une fiscalité attractive, des bas salaires, en vue d'attirer les investisseurs étrangers pour l'implantation d'industries ou le développement du tourisme. Entre 1948 et 1975, l'industrie se développa sur la base de capitaux étrangers, comme par exemple le groupe Esso, représenté par l'américano-grec Pappas, ou Pechiney, qui installa un complexe d'aluminium. La bourgeoisie grecque se concentrait sur les activités bancaires, le commerce, la spéculation immobilière, induite par le développement du tourisme à partir des années 1970. Elle profitait, comme dans de nombreux pays peu développés, de ses liens avec l'impérialisme, de sa protection, pour vivre sur le dos de l'État, des salariés et des consommateurs. Cependant, des écoles, des routes, des aéroports, des hôpitaux furent construits, les télécommunications furent développées, améliorant la vie de la population, malgré le maintien de dépenses militaires démesurées par rapport à la taille du pays. Du côté de la population ouvrière, les Grecs qui cherchaient à échapper à la misère ou à la dictature immigraient et ce mouvement s'amplifia sous la junte. Le mécontentement de la population, le soulèvement des étudiants et l'affaire de Chypre eurent raison du gouvernement des colonels. La junte, une clique avide d'enrichissement, fut éclaboussée par les scandales. Pour faire face à la stagnation économique, elle fit marcher la planche à billets, suscitant le mécontentement populaire. La situation changeait. L'atténuation de la guerre froide, le ras-le-bol du régime, son incapacité à moderniser le pays et à satisfaire la bourgeoisie allaient contribuer à la chute des colonels qui transmirent le pouvoir à la droite. La crise politique s'ouvrit avec la reprise des luttes ouvrières et avec l'écho de l'effervescence des luttes étudiantes dans le monde, et dont celle de l'école polytechnique à Athènes. En 1973, les étudiants se mobilisèrent pour retrouver le droit d'élire leurs délégués. Le pouvoir leur répondit par la menace de les incorporer immédiatement. En novembre, les étudiants occupèrent l'école polytechnique et y créèrent une radio libre qui diffusait les mots d'ordre. Pain, éducation, liberté, ou ce soir meurt le fascisme. Les arrestations se multiplièrent, des jeunes furent soumis à la torture. Devant le risque de contagion de ce mouvement qui devenait de plus en plus politique, l'armée envoya ses chars et assassina une centaine de jeunes. Ces jeunes, morts sous les coups des militaires, appartenaient pour beaucoup aux milieux privilégiés. Les colonels s'alignèrent une de nouvelles fractions de la population. La crise chypriote fut le dernier coup de butoir qui mit fin à leur régime. Chypre avait été une colonie britannique de 1878 à 1960, date à laquelle, confrontés à un mouvement de résistance armée, ils choisirent d'abandonner la domination coloniale sur l'île tout en refusant son rattachement à la Grèce, en invoquant la présence d'une minorité turque. L'île était donc dirigée conjointement par un président issu de la communauté grecque et un vice-président turc chypriote. La junte militaire chercha en 1973 à obtenir du président chypriote, l'archevêque Makarios, le rattachement de Chypre à la Grèce. Celle-ci s'y opposa. La junte utilisa des bandes fascisantes pour déstabiliser le gouvernement, puis elle fomenta plusieurs tentatives d'assassinat du président. Le gouvernement turc riposta en débarquant ses troupes au nom de la défense de ses ressortissants. Le 20 juillet 1974, l'armée turque s'installa sur 36% du territoire. La partition de l'île devint effective, entraînant une nouvelle séparation ethnique qui toucha des milliers de Turcs et de Grecs de part et d'autre de la nouvelle frontière. L'aventurisme des colonels avait permis cette catastrophe. Mais la responsabilité de l'impérialisme britannique, qui avait favorisé les revendications de la Turquie sur ce territoire et les haines entre les deux communautés, restait écrasante. En Grèce, cet échec acheva de discréditer le régime des colonels et ces derniers, privés de soutien, se retirèrent sans bruit. En 1974, le chef de la junte rappela Karamanlis, ancien premier ministre conservateur en exil en France, pour qu'il prenne la tête du gouvernement. Ce dernier organisa un référendum sur la nature du régime et la monarchie fut rejetée à 70% des participants. La classe ouvrière renoua avec les luttes et se mit en grève contre une loi du gouvernement tendant à réduire le droit de grève. Les affrontements firent un mort et le gouvernement recula. La démocratie bourgeoise restait bien fragile. Cependant, les partis avaient de nouveau une existence légale. Le Parti communiste s'était reconstitué, divisé. Les militants exilés dans les pays de l'Est ou de l'URSS, qui n'avaient pas remis en cause leur obédience aux dirigeants soviétiques, formèrent le KKE dit « de l'extérieur ». Alors que ceux qui étaient parvenus à maintenir une opposition clandestine avaient rompu avec Moscou en 1968, après l'entrée des chars soviétiques à Prague. Les deux partis représentèrent 10% de l'électorat en 1974. Mais l'un et l'autre, quel que soit leur langage, engageaient les travailleurs dans les élections et le soutien au Parti social-démocrate, le PASOK, formé par Papandréou après la chute de la dictature. Ce dernier arriva au pouvoir en 1981. Son arrivée au pouvoir impulsa une évolution dans le pays en matière de mœurs et de législation sociale. Le gouvernement socialiste adopta une série de mesures démocratiques. Les exilés de la guerre civile, ceux de 1967, purent rentrer au pays. Le gouvernement poursuivit la libération des prisonniers politiques. Les travailleurs retrouvèrent le droit de grève et le lock-out fut déclaré illégal. Les industriels eurent l'obligation de recevoir les syndicats qui ne furent plus réduits à n'être qu'une courroie de transmission des colonels. L'État mit en place un système de sécurité sociale et de santé. Le PASOK prit des mesures pour moderniser la société. Cela passait par une évolution des mœurs sur le mariage, la religion. L'Église en Grèce dispose d'un poids énorme. Elle est le deuxième plus grand propriétaire terrien après l'État. Elle ne paye pas d'impôts, sauf sur les recettes des activités commerciales qui se font sur ses terres ou dans ses bâtiments. Et bien sûr, elle imprègne toute la vie sociale. Lorsque le PASOK remit en cause une infime minorité de ses prérogatives, à chaque attaque, l'Église mobilisa des foules. Ainsi, malgré les pressions de l'Europe, il fallut plus de 6 ans pour que les cartes d'identité ne portent plus de mention religieuse. L'Europe limita ses pressions à quelques mesures et n'appuya même pas les tentatives de l'État grec de récupérer une partie des richesses de l'Église. Cependant, mariage et divorce civil étaient autorisés en 1981, l'avortement en 1986 et le versement de la dot par les filles au moment du mariage, qui perdurait depuis des décennies, fut abandonné. L'ensemble de ces mesures ont constitué des avancées, en particulier concernant le droit des femmes. Le PASOK mena ce début de contestation du poids de l'Église, mais à contrario, il ne lutta pas contre la corruption de ses fonctionnaires, contre le clientélisme, ses stigmates d'un État les plus pauvres. Au contraire, il en fit un moyen de se maintenir au pouvoir, comme le montrent les scandales dont les députés du PASOK et ses ministres font l'objet aujourd'hui. Quelques concessions économiques furent faites aux travailleurs. Les salaires et les retraites très faibles en Grèce furent relevés. Du fait d'une forte inflation, le gouvernement instaura une échelle mobile des salaires. Il nationalisa, comme le reste de l'Europe, des entreprises en difficulté et les propriétaires récupérèrent leurs capitaux pour des placements plus rentables. Mais tout comme en France, où les socialistes avaient accédé au pouvoir après plusieurs décennies d'opposition, dès l'année 1983, il ne fut plus question que de rigueur. Les salaires furent désindexés, le PASOK usant de son influence pour faire accepter les sacrifices aux travailleurs. Mais ce qui contribua au développement du pays, ce fut l'entrée au sein de la CEE. Le PASOK fut l'artisan de cette intégration dans l'Europe, programmée le 1er janvier 1981. Les puissances européennes y trouvaient leurs intérêts. Grâce à cette intégration, le marché grec leur fut plus facilement accessible. De nombreux chantiers furent ouverts. Les subventions consacrées aux pays du sud de l'Europe en retard économiquement revenaient dans les coffres des trusts européens sous la forme de contrats pour la construction de routes ou celle d'une usine, le développement d'un service. Cette entrée de la Grèce dans l'Union européenne permit effectivement la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, mais accrut l'emprise de l'impérialisme sur la Grèce. La bourgeoisie occidentale, débordant de liquidités et cherchant des placements rentables, trouva un nouvel Eldorado avec les prêts aux pays les plus fragiles de l'Europe, tels que la Grèce, en particulier lorsqu'en 2001, la monnaie nationale fut abandonnée au profit de l'euro. Les banques prêtèrent aux entreprises, aux particuliers comme à l'État, d'autant plus facilement que l'entrée dans la zone euro offrait une garantie supplémentaire. Elles démarchaient leurs futurs clients avec insistance. Le pays allait en sortir surendetté. L'argent de ces prêts revint encore le plus souvent dans les coffres des trusts européens. L'État grec dépensait une part démesurée de son budget à l'achat d'armes les plus modernes. Les banques prêtaient donc pour les Dassault, les Siemens, les Thomson et autres marchands d'armes européens. Les Jeux olympiques en 2004 participèrent à cette curée. Ils coûtèrent au minimum 10 milliards d'euros, dont une bonne partie fut empruntée auprès des banques, des puissances européennes. Les revendications territoriales de la Grèce, qui avaient été étouffées par les 40 années durant lesquelles les frontières avec ses voisins des Balkans avaient été fermées, revinrent en force avec la chute du mur et l'éclatement de la Yougoslavie. Une des ex-républiques de Yougoslavie osa se constituer en État indépendant, prendre le nom de Macédoine, aux grandes dames de la Grèce, dont une des régions s'appelle Macédoine et où Alexandre le Grand, macédonien, fait partie du Panthéon national. Ce minuscule territoire, disputé à plusieurs reprises par les Bulgares, les Grecs, les Serbes, redevint l'enjeu d'une escalade nationaliste guerrière des différents protagonistes de la région. Durant 2 ans, les partis de la gauche à l'extrême droite, à l'exception notable du KKE, se retrouvèrent au coude à coude pour s'opposer à la reconnaissance de la Macédoine et exiger le renoncement de son nom et de son drapeau. Le gouvernement grec imposa un blocus à ce minuscule territoire dont le nom légal aujourd'hui est Fyrom, ex-fédération yougoslave de Macédoine. Le PASOK, qui n'était plus au gouvernement à ce moment-là, ne fut pas en reste et contribua à enivrer la population de ses déclarations nationalistes. Dans sa conquête du pouvoir qu'il récupéra en 1993, il utilisa d'autant plus volontiers ce dérivatif qu'il ne pouvait promettre d'amélioration sociale. Une partie de la population, excitée par les partis de la classe politique qui se partageaient le pouvoir déjà depuis une vingtaine d'années, répondit massivement aux appels chauvins qui réveillaient les conflits territoriaux. Les ardeurs des politiciens furent mis en sourdine devant les appétits de la bourgeoisie grecque aiguisée par la possibilité de la conquête de nouveaux marchés dans les Balkans après la chute des démocraties populaires. La Grèce fait partie des pays qui jouent le rôle d'impérialismes régionaux tout en étant soumis aux impérialismes plus conséquents. Elle est restée un pays de petite industrie, voire d'industrie familiale, à tel point qu'en 2002, sur près de 900 000 entreprises, 8 000 dépassaient les 20 salariés et qu'une grande partie des salariés travaillaient dans la fonction publique ou les sociétés nationales. Mais elle compte quelques dizaines de groupes internationaux et une centaine d'entreprises familiales de taille moyenne. Ces groupes voulaient récupérer des marchés et non faire triompher des symboles. En moins d'une vingtaine d'années, 25 multinationales grecques investirent 60 à 80% de leurs fonds dans les Balkans. La Grèce devint en 2009 le premier investisseur en Albanie, en Serbie et en Macédoine, le deuxième en Bulgarie et le troisième en Roumanie. Parallèlement, les relations avec la Turquie voisine, considérée comme concurrente et ennemie héréditaire, n'ont pas manqué de connaître de nouveaux rebondissements. Récemment, les réserves de pétrole et de gaz que recèle la mer Égée et qui, semble-t-il, pourraient être exploitées, sont à la source de nouvelles tensions opposant les deux pays à propos du partage des eaux territoriales. Partage d'autant plus inextricable que les îles turques sont à la portée de celles appartenant à la Grèce.